Mimi, tu sais ce que j'aime à chaque début d'émission ?
Quoi donc ?
Entendre ta voix avant toutes les autres.
Dans une salle de cinéma, on entend des choses qu'on n'entend plus ailleurs. Enfin, on les entend, mais on n'y prête plus autant attention. Le bruit d'un manteau qu'on enlève, une toux qu'on retient, une respiration dans le noir. Moi, j'aime ce moment juste avant que le film commence, ce moment où tout le monde se tait, où le moindre son devient perceptible. C'est quelque chose qu'on partage, il y a de l'intime ici, partout, dans le détail. Et puis quand l'image apparaît, ce sont les mêmes bruits qui reviennent, ce manteau qu'on retire, mais cette fois sur grand écran. Et là, tout à coup, ça nous émeut, ce frottement n'a plus rien d'anodin. Parce que ces gestes qu'on ne remarque pas dans la vraie vie deviennent au cinéma des signes, des émotions. Le cinéma nous permet d'écouter, de ressentir ce qu'on ne prend plus le temps de sentir, je crois. Et puis parfois sur l'écran, il y a une histoire qui ressemble à la nôtre, mais qu'on n'aurait jamais su raconter. Et puis d'autres qui paraissent très éloignées, mais qui nous concernent quand même, parce qu'elles parlent de justice, de droit, de vérité, de la manière dont on vit ensemble. Ce qui se passe dans un tribunal finalement dit beaucoup du monde dans lequel on vit et peut-être de celui qu'on voudrait construire. Le Festival du film judiciaire de Laval, du 12 au 16 novembre, nous invite à regarder tout cela à travers le prisme du cinéma. Une 16e édition, une programmation collégiale portée par le Tribunal judiciaire de Laval, les avocats du barreau de Laval, la faculté de droit, le Cinéville, le Trianon et Atmosphère 53 que vous connaissez bien. Justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Wilfried Jude, programmateur et directeur artistique au sein d'Atmosphère 53, porte-parole aujourd'hui du festival. Bonjour Wilfried, merci d'être avec nous.
Bonjour.
En seconde partie de cette émission, on retrouvera le reportage Pensée locale de la semaine, direction Les Sorinières à la découverte de Java, un projet de ferme maraîchère et festive. Installée depuis janvier, cette ferme bio portée par trois associés veut être plus qu'un lieu de production. Entre ateliers pédagogiques, guinguettes estivales et ventes de plants, Java cherche à créer du lien et à sensibiliser chacun à ce qu'il met dans son assiette. Et puis à la fin de cette émission, Jean-Michel nous rejoindra pour la chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne. Un petit détour du côté de notre porte-monnaie, de nos factures et de nos bons plans. Voilà, c'est l'agité du local qui commence. Bienvenue à l'auditeur de l'autre radio. Je ne sais pas où il se trouve ou ce qu'il fait. Je voudrais seulement qu'il sache qu'aujourd'hui, on l'emmène ailleurs. Alors, prenez vos affaires, suivez-moi et surtout montez le son, puisque c'est le moment de passer à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Derrière ce qu'on appelle le droit ou la justice, il y a des histoires, des visages, beaucoup de bruit parfois, de grands silences souvent. Le Festival du film judiciaire de Laval revient en Mayenne du 12 au 16 novembre et il met en lumière des questions à travers des images de cinéma. Une 16e édition portée par le tribunal judiciaire de Laval, les avocats du barreau de Laval, la faculté de droit, le Cinéville, le Trianon et j'en oublie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une programmation collégiale. Et puisqu'il fallait une voix pour nous en parler aujourd'hui, je le disais, j'ai invité Wilfried Jude, directeur artistique de l'association Atmosphère 53, association qui porte évidemment également le festival. Je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, Wilfried. Le Festival du film judiciaire est devenu un rendez-vous à part, à la croisée du cinéma, du droit et de la citoyenneté peut-être. Qu'est-ce qui rend cette édition particulière, Wilfried, à vos yeux ?
Alors, c'est étonnant. Hier, lors d'une conférence qu'on a donnée, une conférence de presse qu'on a donnée sur le festival, un journaliste nous a posé la question de savoir quelle était la ligne de force. Et une de nos collègues, enfin une personne, Isabelle Le Demenet, pour ne pas la citer, du CDAD, entre autres, a dit ce serait peut-être justice et conscience qui tend à peu près tous les films de la sélection de cette année. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de films sur la conscience d'un avocat, la conscience d'une policière qui travaille à la police des polices, la conscience d'une jeune femme qui s'est fait agresser sexuellement, la conscience d'un gendarme qui le pousse à aller vers les enfers de sa tentation de l'auto-justice. Donc voilà, on est évidemment la conscience lors des violences commises dans le sport. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire?
Une nouveauté aussi cette année, c'est la conférence, le thriller judiciaire de l'écrit à l'écran, qui est menée par Maître Julien Monnier, un avocat.
Oui, alors Maître Julien Monnier, qui est avocat au barreau de Nantes et qui est cette année passé sur une radio, une autre radio que celle-ci, qui s'appelle France Inter, dans l'émission de Frédéric Sigrist qui s'appelait Blockbuster. Il était venu parler d'Ali McBeal. Donc Julien Monnier, il est connu pour être avocat, mais aussi pour être un spécialiste et un grand cinéphile. Donc un spécialiste du thriller et de ses adaptations à l'écran. Donc il nous a fait le plaisir de venir pour présenter, enfin pour faire cette conférence autour du thriller judiciaire, de l'écrit à l'écran. Donc c'est une nouveauté et je tiens à préciser que cette conférence est gratuite.
Et donc elle aura lieu le 14 novembre.
Elle aura lieu le vendredi 14 novembre à 18h au Cinéville de Laval.
Qu'est-ce qui guide vos choix quand vous construisez la programmation à plusieurs voix avec l'ensemble des partenaires? Comment est-ce que vous travaillez ensemble?
Ben, en fait, le principe, c'est qu'Atmosphère 53 va chercher des films qui essayent de coller à l'actualité cinématographique et aussi aux actualités judiciaires. Et donc, aux actualités de questions de justice, pour être plus précis. Et donc, le comité aussi fait des propositions sur certains films qu'ils aimeraient bien voir ou revoir. Et nous, on va chercher les films, on va demander des liens pour les films aux distributeurs des films. Et ensuite, chaque membre du comité essaye de visionner un maximum de films. Et ensuite, on se retrouve pour faire nos choix. Donc, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais en général, ça se passe plutôt dans une franche, j'allais dire camaraderie, mais dans une franche... des débats qui sont francs, pardon.
Et alors, il y a des étudiants en droit aussi qui participent à l'analyse des films et à la médiation auprès du public. Qu'est-ce que ça apporte au festival? Et peut-être inversement, qu'est-ce que le cinéma apporte à la formation de futurs juristes, de futurs professionnels?
Alors, les étudiants en droit, ils reprennent les films et ils créent des fiches autour des notions de droit qui sont abordées dans les films. Donc, ils font une analyse, pas du film à proprement parler, mais au moins des choses qui sont abordées dans le film. Donc, eux, ils sont très investis là-dedans. Ils sont suivis par une professeure. Hein. Ils font ça pendant leur temps de formation. Donc, ça leur permet de caler leurs pensées, d'aller chercher des choses efficientes pour le public, de simplifier aussi, de rendre ça accessible à tous et à toutes. Et on les a rencontrés hier, c'est un exercice qu'ils aiment beaucoup faire et on est très contents qu'ils participent au Festival du film judiciaire de Laval.
C'est une édition qui fait dialoguer fiction et documentaire. Là, je pense au film Dossier 137 sur la responsabilité policière, le film plus sur la défense et le doute, ou alors Black Box Diaries sur la parole des femmes. Là, c'est un documentaire, ou alors Au rythme des parloirs sur la justice vécue au quotidien, ici, localement. C'est encore aussi un documentaire. Comment est-ce qu'on vous tranchez peut-être entre cette question de la fiction, du documentaire, qui, avec chaque fois un regard différent, parle de justice?
Alors, ce qui nous aide à trancher, c'est la qualité des films. C'est-à-dire que, pour en revenir au film de Pascal Ayala, donc, qui est un réalisateur qui vit à Laval, son film Au rythme des parloirs, c'est un film sur la MAFED, sur la maison d'accueil des familles et enfants de détenus qui se trouve juste face à la maison d'arrêt de Laval. Et lui, ça fait longtemps qu'il travaille avec eux, donc il en a fait un film. Enfin, il travaille avec eux, il a fait, et ça fait longtemps qu'il les connaît pour son film. Et on est très contents parce qu'on trouve le film très sensible, très à hauteur d'homme. Un film qui met en lumière la difficulté pour certaines familles ou certaines compagnes, certaines mamans, de venir voir leur fils, leur compagnon en prison. Et comme dit l'une d'entre elles dans le film, on prend double peine, nous, ceux qui sommes dehors. Pardon. Donc voilà, on est très contents d'accueillir Pascal et les bénévoles de la MAFED qui font un travail remarquable pour accueillir ces familles dans les meilleures conditions. Et voilà. Donc
un point de vue peu connu finalement du grand public.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que... On est très content d'avoir Au rythme des parloirs et en plus c'est un film local qui pourra intéresser aussi les gens du coin. Voilà, concernant l'autre documentaire Black Box Diaries, c'est un de mes films préférés de la sélection. Je trouve que le film est formidable. Donc c'est l'histoire d'une jeune japonaise qui s'est fait agresser sexuellement et qui a beaucoup beaucoup de mal à instruire en justice son agresseur parce qu'il y a une omerta autour d'elle. Son agresseur est un proche du premier ministre japonais et donc le film à ce jour est encore interdit au Japon. Donc elle a écrit un livre et elle en a fait un film qui est très intéressant parce que hybride, c'est entre le journal intime et l'enquête policière. Donc elle n'hésite pas à se filmer avec un téléphone portable. Il y a plusieurs sources de filmage qui rendent le film très contemporain, très très dans l'époque par rapport aux violences faites aux femmes. On est très content de l'avoir et on aura comme invité le distributeur français du film. Parce que c'était un peu compliqué de faire venir Shiori Ito pour une heure de discussion avec le public du Japon. Donc voilà, ça on est très contents aussi.
Et alors, en ouverture du festival, on a une avant-première avec le film Dossier 137.
Oui, avant-première du dernier film de Dominique Moll, que les auditeurs connaissent peut-être parce qu'il a fait Seules les bêtes et La nuit du 12, qui continue à explorer son travail autour de l'institution policière avec Dossier 137, donc, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, enfin d'une jeune policière incarnée par Léa Drucker, qui enquête sur une possible bavure policière. Donc on est très content, le film, on est très content de l'avoir en avant-première déjà. Et on a été séduit par le film, par sa qualité, par sa sobriété, sa manière de raconter l'histoire, les histoires, et on est tout à fait réjoui de pouvoir le passer au public, avec une petite surprise au tout début du film, mais je n'en dirai pas plus.
L'atmosphère 53 nous habitue à ce genre de belles surprises. Les films que l'on découvre nous permettent justement de voir la justice sous un cadre un peu plus institutionnel, mais il raconte aussi la société, des parcours intimes, des combats. C'est aussi le cas avec le film dont vous avez un petit peu parlé, Julie se tait. C'est un premier film pour le réalisateur belge, je crois.
Tout à fait. Alors ça, ce sera la séance. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette année, il y a un jour de plus, sachant qu'on a cette conférence, donc on décale. Et la séance au Bourgneuf-la-Forêt, au Trianon du Bourgneuf, aura lieu le dimanche à 15h avec un très beau film sur la violence dans le sport. Donc Julie se tait, qui est un film que moi je trouve très beau, très pareil. On est dans une sobriété, dans une économie de moyens et dans quelque chose d'assez taiseux. Donc on sent que la menace est là, la menace est permanente dans le film. Mais l'héroïne, qui est donc Julie, jeune tennisman, est-ce qu'elle va aller au bout de sa démarche? Est-ce qu'elle le retient? Est-ce qu'elle n'y va pas? Donc le film pose ces questions de morale, encore une fois, et de comment on se sauve la vie. Donc voilà, c'est un film peut parfois... Alors c'est pas un documentaire, évidemment, mais un film peut résonner très très fort, peut-être auprès de certains et certaines qui subissent ce genre de choses, et qui leur donne du courage. C'est aussi la force et la puissance du cinéma.
Et alors, quand je parlais d'intime, de parcours individuel, je pense aussi au film Le Fil de Daniel Auteuil. Là, on est vraiment sur un parcours d'avocat, un combat avec soi-même, un combat...
Tout à fait. Oui, oui, le film de Daniel Auteuil, il est très intéressant là-dessus, sur la croyance, le présumé innocent. C'est compliqué de ne pas spoiler le film, là. Mais je vais m'arrêter là sur le film. Mais c'est un film très, très intéressant sur un cas de conscience. Et sur comment un avocat peut aller jusqu'au bout de ses convictions pour essayer de défendre un de ses clients. Oui. Mm-hmm.
Et alors, comme chaque année, il y a aussi une programmation à destination des scolaires.
Oui, alors cette année, on a la chance, on aura presque 1200 élèves qui viennent voir différents films. Donc dans les films qu'on leur propose, on leur propose Le Fil, entre autres, de Daniel Auteuil, mais on leur propose aussi Un Triomphe. D'Emmanuel Courcol, si je ne m'abuse, qui est aussi le réalisateur d'un film qui est sorti cette année qui s'appelle Enfant phare. On leur propose toujours un film de patrimoine, donc un film qui a plus de 20 ans, et cette année on leur propose Erin Brockovich de Steven Soderbergh avec Julia Roberts, et le dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Juré numéro 2. Donc, alors l'avantage aussi avec les scolaires, c'est que au même titre que le grand public, j'allais dire, il y aura des invités aussi à l'issue de chaque séance de tous les films, donc scolaires et publics. Donc les gens peuvent échanger avec des spécialistes de la justice, des avocats qui sont là comme invités, on a un juge d'application des peines qui sera là, on a le réalisateur de Rythme des parloirs. On a des spécialistes du cinéma qui viennent parler des films, notamment sur Dossier 137 et sur Julie Sautet. Donc Nicolas Thévenin, qui est spécialiste, qui est professeur et spécialiste du cinéma, qui est le directeur de la revue Réplique, et Margot Grenier, avec qui on travaille, qu'on aime bien, d'où Atmosphère 53, qui elle aussi est formidable quand il s'agit de parler de films avec le public. Elle est toujours très prolixe.
Les rendez-vous qui nous sont donnés sont principalement au Cinéville, avec une dernière date, on l'a dit, le dimanche 16 novembre au Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt. Le rendez-vous commence le 12 novembre, se termine donc le 16 novembre. Pour les précédentes éditions, on parlait d'un goût des spectateurs pour le film judiciaire. Est-ce que, Wilfried, vous sentez toujours justement cette attente particulière, cette curiosité accrue pour ces films qui interrogent la société vraiment du point de vue de la justice ?
Eh ben, vu le nombre de films qui sortent par année autour de la question judiciaire, on pourrait dire qu'effectivement, le public aime bien aller voir des films judiciaires ou des films policiers, j'allais dire, d'enquête. Mais effectivement, nous, on a pas de problème à aller chercher la présélection parce qu'il y a plein de choses qui existent. Hein. Donc ça, c'est... Je crois que les gens aiment bien ça. C'est comme quand on fait nos rencontres cinéma et santé, par exemple. Il y a aussi énormément de films sur la santé qui sortent. Et je pense que les gens, ça les rapproche d'une certaine réalité, d'une certaine contemporanéité, je l'ai dit en un seul sens accroché, sur qu'est-ce qui traverse les lignes de force de la société.
Et donc, cette 16e édition du Festival du film judiciaire commence ce 12 novembre. Merci beaucoup, Wilfried, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Et c'est sur l'autre radio. Votre émission quotidienne continue dans quelques instants, mais avant ça, on marque une petite pause musicale. Je voulais écouter avec vous la soirée de Linus Sandberg avec la voix de Fleur au Food.
À des convives avides.
un projet de ferme maraîchère et festive installée aux Sorinières. Depuis janvier 2025, la ferme bio Java est plus qu'une ferme maraîchère. Portée par trois associés, Léon, Timothée et Amélie, Java est pensée comme un lieu de vie et de partage. Entre vente de plants, ateliers pédagogiques et guinguettes estivales, Java propose de nombreux événements ouverts au public visant à créer du lien et sensibiliser chacun et chacune sur les enjeux liés à l'activité maraîchère et ce qui est mis dans notre assiette. Pour en savoir plus sur leur démarche, Julie Judet de Prune est allée planter ses micros au cœur de leur serre en verre, l'occasion de mieux comprendre ce que ça signifie être une ferme maraîchère et festive. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Installée aux Sorinières près de Nantes depuis janvier 2025, la ferme bio Java est plus qu'une ferme maraîchère. Portée par trois associés, Amélie, Timothée et Léon, Java est pensée comme un lieu de vie et de partage. Entre vente de plants, ateliers pédagogiques et guinguettes estivales, Java propose en effet de nombreux événements ouverts au public visant à créer du lien et sensibiliser chacun et chacune sur les enjeux liés à l'activité maraîchère et ce qui est mis dans notre assiette. Pour en savoir plus sur leur démarche, Prune est allée planter ses micros au cœur de leur serre en verre. Entre les carottes et les pommes de terre, nous avons eu droit à une petite visite, l'occasion de mieux comprendre ce que ça signifie être une ferme maraîchère et festive.
Bonjour, bienvenue. Bienvenue à Java.
Timothée, Tim, 31 ans et associé à Java.
Ferme maraîchère aux Sorinières. Là, on se situe plus précisément dans la serre, notre serre en verre de 3,5 m² où on cultive cette année notre production de légumes. On a aussi une partie plein champ, mais cette année, on fait que production dans la serre. Tu fais quoi, Léon, là ?
Ben là, je récolte les patates pour la vente de mercredi. Hop là. Je suis Léon, je suis le troisième associé de Java. Ah, Java, comment définir ? Oh bah je pense que c'est trois rigolos qui sont décidés à faire du maraîchage et qui font ça sérieusement.
Mais t'inquiète, j'ai regardé quand je t'ai vu, c'est bon.
Tiens, on va pouvoir checker l'irrigue.
Ah oui. Une serre typique du maraîchage nantais. Donc c'est une serre assez basse de plafond, tout en verre. Il y a un peu tout dans la serre, c'est à la fois un lieu de travail de production, mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut se poser pour faire des réunions, pour manger, pour faire des petites siestes. Ouais, il y a une belle lumière, c'est une période de l'année assez chouette, là, la fin d'été, début d'automne, parce qu'on a quand même encore la lumière un peu estivale de l'été qui est là, le soleil est encore un petit peu haut, alors il est moins, mais il reste quand même encore un peu haut. Donc ouais, c'est chouette là.
Ouais. Quand ces sont trop fermées, ça c'est pas mal.
J'ai l'impression qu'elles sont trop ouvertes là, devant. Tu vois qu'il n'y a pas assez. Tu vois qu'on dirait qu'elles sont trop ouvertes.
Amélie ?
Ouais ?
Qu'est-ce que tu fais ?
Ben là, on est en train de remettre une bâche. Amélie, je suis nantaise et je suis maraîchère au sein de l'association du collectif Java. On essaie de tendre des bâches pour couvrir les précédentes cultures. Là, c'était des pommes de terre. Nous, notre objectif, c'est de faire venir les gens à la ferme sur différents aspects, via différentes activités. On peut adorer faire un peu la fête dans un cadre bucolique et auquel cas on va venir à la guinguette l'été. Mais on peut aussi vouloir des légumes. Donc l'idée, c'était de pouvoir vendre nos légumes aux gens à côté et sur des activités comme la vente de plants, par exemple, qui peut attirer des gens d'un peu plus loin, de faire venir les gens à la ferme. Puisque un des ateliers qu'on va mettre en place, plus développer les années à venir, c'est les ateliers pédagogiques. Et ça, pour le coup, ça peut parler aux Nantais aussi directement, puisqu'on n'est vraiment pas très loin, en bus, en vélo, ou un petit coup de voiture, et on est chez nous, quoi. Moi aussi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est de visibiliser le métier de paysan ou paysanne, parce que on ne les rencontre pas souvent, ce qui est normal. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant, via des biais, à nouveau, de vente de plants, de guinguettes, enfin, en fait, de près ou de loin par rapport au végétal. Si les gens, ils ont mis un pied chez nous, même si c'est pour faire la fête, eh ben, ils se sont rendus compte que, bah oui, il y avait des activités culturelles et sympas qu'on pouvait faire à côté. Et puis, en fait, il y a peut-être une petite graine, voilà, sans mauvais jeu de mots, qui va aussi être mise dans leur tête pour se dire, bah, comment demain je consomme mieux, en tout cas par rapport aux légumes, qui est important, en effet, dans chaque repas, normalement.
Et du coup, cette planche-là, c'est... une planche qui illustre bien le principe de l'association, parce que sur une même planche, en gros, on va avoir 5 rangs. Et sur ces rangs-là, on va avoir un rang de carottes, un rang de mâches, un rang de carottes, un rang de carottes, un rang de mâches.
Donc on est, nous, sur une méthode qu'on appelle bio-intensive. Intensive dans le côté, on a un petit espace et on va faire plein d'associations de légumes. Donc il y a des associations en fait qui sont mises en place pour avoir un maximum de légumes. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des légumes toute l'année à part Noël et que les gens puissent y trouver de tout.
C'est joli.
On est donc non mécanisé et nous étant trois et parce qu'on fait justement une vente de plants, on fait tous nos plants de A à Z. Donc ça, c'est une partie aussi de notre quotidien de faire ce qu'on appelle la pépinière, de vérifier que tout va bien, que tout le monde a suffisamment d'eau et voilà.
En fait, typiquement, ce qu'on peut faire en pépinière, c'est quand on voit qu'une plaque est un peu sèche, genre là, typiquement, on a une plaque de roquette qui est un petit peu sèche, et ce qu'on fait, du coup, simplement, on la prend et puis on va la mettre dans notre petite piscine.
Donc ça, c'est notre modèle, on va dire, agricole. Et puis après, on a justement un atelier un peu annexe, la guinguette estivale, qui l'année prochaine démarrera en juin, sur globalement 4 mois, avec des ouvertures récurrentes pour que les gens puissent venir faire un peu la fête chez nous.
Là, on est arrivé sur l'espace guinguette, donc qui est juste à côté de la serre et du plein champ. Et il y a un joli panneau qui a été fait par le frère de Amédie, qui a peint sur de la tôle qu'on avait récupérée, notre logo, Java, avec marqué « Bienvenue à Java, ferme maraîchère et festive », qui est le nom de notre ferme.
C'est une question assez récurrente qu'on a, de dire « Mais Java, pourquoi vous appelez Java ?» Eh bien, déjà, on a créé du lien avec la personne, finalement. Java, ça vient d'une réflexion où on s'était dit « On a plein d'activités dans notre projet qui n'est pas juste liée à la production agricole. » Enfin, il y a toujours un lien, hein. Et l'idée, c'était de ne pas forcément s'appeler la ferme de, les jardins de. On voulait un truc qui sorte du côté agricole, quand même. Et donc, qui incarne aussi un truc positif, sympa. On a trouvé Java, auquel on a pu trouver un acronyme qu'on a finalement vite laissé tomber, parce que c'était un peu lourd, mais qui était jardin accueillant, vivrier et autonome. Qui reflète quand même nos valeurs, mais d'un point de vue communication, on l'a mis de côté. Et en fait, on s'appelle Java, ferme maraîchère et festive, où l'idée, c'est que les gens comprennent qu'on fait a priori du légume et un truc en lien avec la fête. Et ils peuvent nous suivre sur les réseaux pour savoir tout ce qu'on fait, parce qu'on communique beaucoup dessus. Mais voilà d'où vient le nom. Donc chacun, il voit ce qu'il veut, mais en tout cas... Ça fait un peu parler, donc finalement, c'est pas plus mal.
Ouais, nous, on voulait quelque chose d'assez festif, joyeux, coloré.
C'est vraiment très gratifiant d'être ancré sur son territoire et de pas faire, à nouveau, c'est en lien avec la visibilité, mais de pas faire son petit travail... un peu ingrat de souris de son côté et sortir de sa cave une fois qu'on doit vendre quelques légumes. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper appréciable d'avoir les gens qui viennent à la serre. Et puis, on voit que les gens qui sont venus qui viennent à la vente de plants sont venus à la guinguette. Après, il y a parfois des profils qui sont intéressés que pour la vente de plants ou que pour la guinguette. Mais c'est pas gênant, en fait.
En fait, on est tous arrivés avec cette volonté de créer du lien avec plein de types de personnes différentes et via des activités différentes, quoi. On s'est retrouvés dans cette envie-là, au-delà de produire des légumes, de faire vivre ce lieu et d'être acteur et actrice de notre territoire via ces activités-là.
Ah oui, pardon.
C'est un truc à se baisser.
Pour en savoir plus sur les activités de Java, ferme maraîchère et festive, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Le prochain atelier pédagogique « Ramène ta fraise » aura notamment lieu le samedi 15 novembre prochain. Sur inscription, les ateliers s'adressent aux petits et grands pour être incollables sur l'itinéraire de la fraise.
C'était « Pensée locale, un enjeu de société ». Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage réalisé par Julie Judet pour Prune.
Et pour terminer cette émission, on retrouve Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne. Il nous aide à y voir un peu plus clair dans notre quotidien de consommateur entre bons réflexes, vigilance et conseils utiles. Écoutez.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne, association de défense des consommateurs. Quelle est l'actualité du moment ?
Bien, bonjour Margot. Pour les consommateurs, c'est dans quelques jours, le 28 novembre très précisément, le Black Friday. Ce jour-là, toutes les enseignes, toutes les marques affichent des réductions de prix très importantes destinées principalement aux achats de fin d'année. Notons que le Black Friday est suivi par le Cyber Monday, le lundi 1er décembre, avec des réductions similaires.
C'est vraiment le jour des bonnes affaires ?
Si je vous en parle maintenant, c'est qu'il ne faut pas tomber dans les pièges que peuvent cacher ces promotions. Rappelons tout d'abord que la vente à perte est interdite en dehors des périodes de soldes réglementées. Des réductions de 80 ou 90% sont donc impossibles, sauf magouille sur les prix de référence. Comme tout achat, l'achat lors de ces jours particuliers doit être raisonné et préparé. Le prix de référence doit être le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. C'est pour vérifier ce prix qu'il est bon d'aller voir à quel prix est affiché l'objet convoité. Mais il est courant, malheureusement, que le prix de référence indiqué soit majoré par rapport au prix habituel, ce qui est puni par la loi. Il faut aussi vérifier les caractéristiques du produit.
Ces règles sont aussi valables en boutique et sur le net ?
Oui, les mêmes règles s'appliquent. De même que les conditions de garantie, notamment la garantie légale de conformité, qui, rappelons-le, est de 2 ans contre tout défaut de fonctionnement. Et pour les achats sur le net, il y a le délai de rétractation de 14 jours après livraison, les frais de retour étant à la charge du client. Mais ces jours de forte remise, pendant lesquels la vigilance des clients est émoussée par l'attrait de la remise, sont une aubaine pour les créateurs de sites frauduleux. Pour ce qui est des grandes enseignes du net, il faut d'abord bien vérifier que l'on est sur le site officiel et non sur un site miroir. Ce qui est de plus en plus compliqué compte tenu du professionnalisme des écrous. Prenez le temps de vérifier l'adresse du site en épelant toutes les lettres, le cadenas de paiement sécurisé, l'existence des mentions légales, des conditions générales de vente et une adresse physique en France. Attention aux places de marché hébergées par les grandes enseignes. L'enseigne porteuse n'est, en général, responsable de rien vis-à-vis du site hébergé. Si le site est un site chinois, par exemple, il faut bien avoir conscience que l'on n'aura aucun recours en cas de problème.
Peut-il y avoir des problèmes de paiement ?
Et bien entendu, les sites frauduleux, en plus de ne pas livrer le produit, ont pour objectif de récupérer le maximum d'informations sur vous et, s'ils le peuvent, tous vos codes de paiement. Avec votre numéro de téléphone et votre nom, ils peuvent se faire passer pour votre conseiller bancaire, voire un ami en difficulté à l'étranger. Je le répète, la vigilance est de rigueur, le stress, toujours mauvais conseiller.
Merci Jean-Michel Guinaudot, on y pensera le jour venu. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association ?
Bien, l'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 02 43 67 01 18, par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir.fr ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services, pour des animations par exemple. À bientôt.
Merci Jean-Michel. Je rappelle que le podcast est disponible sur le site de l'autreradio.fr. À bientôt. La L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Wilfried Jude d'être venu à notre micro dans le studio de l'autre radio. Merci Jean-Michel Guinaudot. Votre émission se termine, sa musique originale est signée Lénaïque Folzour. On reste bien à l'écoute de l'autre radio à 19h. L'émission Novorama prend l'antenne avec une sélection de nouveautés indie rock, pop et électro, avec chaque semaine des chroniques et la découverte d'un artiste ou d'un groupe émergent. Et puis à 21h, cap sur Chaosphère avec des pépites toutes fraîches, un live d'Ozzy et même un titre de cathédrale tout juste ressorti du placard pour une soirée qui s'annonce bien chargée en décibels. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Ce sera le grand format. On se posera une question simple. Que reste-t-il du chaos quand on le transforme en beauté? Et pour réfléchir ensemble à ça, nous serons avec Arthur H. avant son concert au Reflet à Saint-Berthevin ce 8 novembre. D'ici là, gardez près de vous ce qui vous réconforte, ce qui vous réchauffe. Et surtout, s'il vous plaît, faites-le bien.
Alors, Mimi, on leur dit au revoir?
Oh non, juste à demain.